Bonjour les gens, bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Blabla avec le Yarb. On devrait d'ailleurs commencer bientôt les Vodons chez le Yarb. Ça, c'est quand je vais avoir des invités chez nous. On attend quelques trucs de matériel, il me manque des fils à recevoir. Puis faut que je m'achète un rideau parce que ça serait pas super beau de la façon que je suis placé. Vous allez voir genre ma cuisine. Puis je suis comme, ouais, c'est pas si nice que ça. C'est le deuxième essai d'enregistrement du podcast ce soir parce que j'ai essayé de l'enregistrer cet après-midi. Ben ça a pas fonctionné, hein. La technologie, c'est ça, des fois, ça veut pas. Mais là, tout semble être clair, tout semble être correct, donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire mon pedigree. J'ai jamais fait l'historique du show du Yarm, puis tout ça. Vous allez savoir le nom vient de où. Puis je l'ai fait un peu dans le premier épisode quand je parlais de la radio. J'ai fait seulement la radio, mais je vais faire jusqu'à Twitch au complet. C'est ce qu'on va faire. Je veux juste remercier avant qu'on commence les gens qui sont sur YouTube, hein, qui écoutent, sont abonnés YouTube, les gens sur Twitch qui sont là live en ce moment pendant qu'on enregistre, les gens sur Spotify aussi, il y a Balado Québec, mais en fait toutes les je pense que je suis sur iTunes aussi parce que je suis diffusé par Balado Québec, donc je suis sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez trouver, sauf si ton ami genre il a gossé une plateforme de podcast dans le coin d'internet que personne connaît qui s'appelle genre salutpodcast.gec2da2. On le trouvera pas, OK? Je serai pas là. Mais les grosses plateformes de podcast, je suis là. Voilà, c'est quoi le calibre des invités? Ben, il va y avoir des invités de tout genre parce que j'ai plein d'invités en tête. Je veux pas nommer des noms non plus et qui peuvent pas venir puis que vous soyez déçus. Mais je vais inviter toutes sortes de gens ici. Pour la première, j'aimerais ça avoir un de mes bons amis qui est un gros YouTuber, mais je veux pas en dire plus. Sinon, j'ai un de mes chums aussi qui fait du urbex, donc je vais inviter ça. Puis deuxième partie dans le podcast, c'est vrai, aujourd'hui, je veux parler des gens qui sont les fameux décideurs du bon contenu, tu sais, qui vont venir, exemple, sur ta chaîne et te dire « Ah, ton contenu, c'est de la marde » ou « J'aime pas ce que tu fais » et « Qu'est-ce que ça donne de dire ça? » Qu'est-ce que, tu sais, on va en jaser, puis je vais avoir une conversation avec les gens sur Twitch, les gens qui sont ailleurs sur les autres plateformes, vous dirigez vers YouTube puis me laissez votre commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Fait qu'on va en jaser aussi ce soir. Inside the podcast. Tu vois, c'est un genre de podcast un peu bilingue. Non, mais je trouvais ça drôle parce que quand je pensais à faire le podcast puis à faire mon pedigree, j'aime pas tant ça parler de moi. Je suis pas quelqu'un qui est très imbu de soi-même. J'aime beaucoup encourager les autres. J'aime beaucoup, tu sais, l'esprit de gang. J'ai toujours fait des sports de gang et tout ça. C'est pas quelque chose qui me rend super à l'aise, mais il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça. Fait que je vais faire le truc au complet. Fait que quand les gens vont me poser des questions, je vais pouvoir les référer directement vers le podcast. Sataniste qui dit dans Twitch, faudrait parler plus de poutine. Ben là, man, je le sais pas. La poutine, mes belles années de poutine sont derrière moi. À cette heure, je mange ça et je suis comme... je veux mourir, mais... You know. C'est bon pareil, une bonne poutine, mais à Drummondville. Mais là, on partira pas le débat de qui a inventé la poutine au Québec, all right? C'est-tu Warwick, c'est-tu Victoriaville, c'est-tu Drummondville? Honnêtement, on s'en crips. Tant qu'il y en a une dans ton assiette, quand t'as le goût d'en manger une, c'est l'essentiel. Je pense. J'ai pas la science infuse, mais je pense... Je me porte volontaire pour tester les poutines des restos et t'en parler après. Je sais, il y a un streamer sur Twitch, pour les gens qui écoutent sur Twitch, qui testait sur sa chaîne YouTube des poutines, qui est une excellente idée, soit dit en passant. Il se promenait dans un casse-croûte puis il donnait une note là, aux poutines. Puis il était comme « Ah, j'aime cette poutine pour raison X ou je déteste cette poutine pour cette raison. » Dieu l'a créé, mais cela a pris du temps à nous la partager. C'est vrai, t'es bien beau à soir, toi. Ben merci. Voyez-vous, les gens, je me fais souvent complimenter comme ça sur Twitch. Je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe et je sais pas pourquoi les gens disent ça. Mais juste avant qu'on starte sur mon historique, parler de poutine, j'ai déjà mangé au Festival de la poutine à Drummondville, j'ai déjà mangé une poutine au kangourou et une poutine à l'alligator, et les deux étaient complètement dégueulasses. Si vous voyez ça sur un menu, conseil, OK? Ben, si vous voulez l'essayer, mais une poutine à l'alligator, ça goûtait la swamp, là, tu sais, les marécages, comme... J'ai vraiment détesté ça. Puis poutine au kangourou, ben, c'était un peu comme de l'ours. Je trouvais que la viande était comme sec. C'était pas miam-miam, là. C'était pas hyper délicieux comme mets. Mais bon. De toute façon, vous allez voir, dans ma vie, je vais parler des débuts jusqu'à Twitch. Vous allez voir qu'on va parler une fois de temps en temps de bouffe. Et j'aime ça manger, qu'est-ce que je te dis? C'est des choses qui arrivent. Mais on va commencer. En fait, moi, j'ai grandi dans une petite ville. Je ne sais pas si c'est des gens qui connaissent la Beauce ici, hein, les chefs et tout ça, hein, les fameuses jokes de chefs. Mais ou les cousines, je les connais tous, mes cousines, j'ai toutes vues tournées. C'est pas ça que je voulais dire. C'est une blague en passant. Mais ouais, j'ai grandi à Sainte-Marie-de-Beauce, qui est une petite ville à peu près 25 000 habitants maintenant. Si vous avez suivi les inondations pour les gens qui sont au Québec, c'était une des villes qui était inondée. Il y a des gens qui sont encore ben gros dans le trouble avec ces histoires-là. J'ai grandi dans cette petite ville-là. Mes parents restaient à l'opposé de la ville. C'est drôle parce que mon père restait sur la rue Notre-Dame Nord et ma mère restait... C'est plus comme ça maintenant. Mais non, mon père Notre-Dame Sud et ma mère Notre-Dame Nord. Fait qu'ils habitaient un peu aux opposés. Et j'ai grandi, j'étais allé à l'école secondaire là jusqu'à ce que j'aille étudier en radio. Pas grand-chose à dire d'intéressant de... Ben, en fait, ouais, parce que c'est là que j'ai commencé à aimer tout ce qui est média, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est audiovisuel, finalement. À la fin de mon secondaire, un peu plus à la fin de mon secondaire, ouais, je dirais. Parce que mon père avait une caméra, puis mon père, c'est le genre de personne qui s'achète des affaires, des bébelles électroniques, mais il s'en sert pratiquement pas. Tu sais, mon père, il a un drone, OK? Mon père, il a un drone, mais à part se couper le doigt avec son drone, il fait pas grand-chose. Il l'a montré à ses amis, puis il est comme « Check, j'ai un drone, ça prend des photos super haut. » Ouais, mais tu fais pas de vidéo, il se fait qu'un drone, tu sais. Fait que mon père avait une caméra, puis on a commencé un truc c'était Facebook. YouTube était pas connu encore à cette époque-là, ben. On était sur... ça s'appelait les Chums, puis c'était un concept bien simple. C'était trois gars, une caméra, puis c'était des sketchs. Puis c'était des vidéos un peu weird, des trucs que nous, on trouvait drôles. Dans le fond, le but, nous autres, c'était de nous faire rire, tu sais. Puis à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait du vidéo encore. C'était aux alentours de 2006-2007. Il n'y avait pas grand monde qui faisait du vidéo, là, tu sais, pour dire qu'il y avait des grosses communautés. C'était très minime. Puis on était quand même fiers parce que avant qu'on ferme la page Facebook, ce que j'aurais jamais dû faire, je l'ai fait un peu par frustration. Maintenant, on s'était chicané là-dedans. Puis, tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas à ce que tu fais. Puis il y avait des super bons vidéos là-dedans. Trois gars, une caméra, no content. Il n'y avait rien de pornographique, Supermark. Inquiète-toi pas avec ça. Mais ouais, c'est ça. Je m'en voulais un peu parce que j'ai détruit ces vidéos-là. Il en reste des extraits sur mon YouTube, Le Show du Diable. Si jamais ça vous tente d'aller voir ça, mais c'était bien... C'était bien niaiseux, c'était des sketchs complètement ridicules, c'était ce que nous, on avait le goût de faire. T'sais, maintenant, on avait mis des pétards dans une poubelle, on faisait un sketch à un moment donné où que j'ai acheté un Mac, mais qui marchait pas, mais j'avais pas branché, puis j'essayais de l'ouvrir, puis je le pète avec un bat de baseball, inquiétez-vous pas, le Mac était déjà brisé, puis c'est ça, fait que... YouTube était pas connu avant Facebook. Oui, mais tu sais, c'était pas... Il y avait pas de... On voyait pas vraiment les possibilités avec YouTube. Tu sais, on savait pas qu'est-ce qui allait pogner ou pas. Puis nous, on avait décidé de mettre nos vidéos sur Facebook. On avait déjà un bon following pour ça. Puis c'est vraiment là que j'ai eu l'amour de faire des... Tu sais, comme... C'était pas live, mais j'ai eu l'amour de développer ce côté-là de faire des vidéos puis tout ça. Par la suite, j'ai étudié au CRTQ, qui est le Collège Radio-Télévision de Québec. Puis j'ai étudié en radio pendant un an. Puis ça a été vraiment long avant de me placer. J'ai fait une émission à Radio Communautaire qui était à Charlebourg, à Québec. Ça, j'en ai parlé dans le premier podcast. Fait que je vais le passer assez rapidement. J'ai fait une émission qui s'appelait, dans le fond, c'était-tu les tops? C'était les meilleures tunes, en fait, de métal que... moi, j'étais co-animateur dans cette émission-là. Il y avait un de mes amis qui disait « T'attends-tu de réanimer ça avec moi? » Je me souviens pas exactement le nom, mais on passait des grosses tunes de métal qui étaient le fun. Il y avait pas beaucoup d'auditeurs, mais on faisait ce qu'on voulait. On avait la liberté de faire ce qu'on veut. Fait que, tu sais, c'était vraiment cool de pouvoir... travailler, faire des erreurs. Salut, Six Shift. Et on pouvait justement développer ce côté-là de radio, puis s'améliorer, puis devenir meilleur. Puis je suis retourné à Sainte-Marie après. D'ailleurs, en passant, je disais qu'on parlait de bouffe. Si jamais vous passez par Sainte-Marie-de-Beauce, OK, vous devez absolument aller manger à la pizzeria Joannina. Je sais pas si on dit vraiment... Jovanina ou Joannina. Ça n'a jamais été clair. Il y a toujours eu une espèce de petit... c'est pas clair entre les deux. Mais c'est la meilleure pizza que vous pouvez pas manger au monde. Ben, au Québec. Et là, il y en a qui vont dire « Ah, j'ai pas aimé ça! T'as pas de goût, D.A.! C'est tout ce qui se passe! » Je t'en ai ramassé quelqu'un sur Twitch. Fait que non, j'ai fait ça. J'ai fait, dans le fond, j'avais un band aussi dans ce temps-là. J'ai déjà montré sur Twitch mon ancien band, un band de punk rock aux alentours de 2008 que j'ai commencé à faire de la radio. Il y a pas grand monde qui passe par Sainte-Marie. Oh, come on! T'as pas goûté à Pizza Giffard, man? Non, je veux pas y goûter non plus. Alors, c'est pas vrai, je suis pas fermé d'esprit. Non, je veux pas, c'est-tu clair? Non, non, je vais écouter mon nez si tu m'en amènes. Ceux qui boivent pas, qui écoutent en audio, il y a DH dans le chat sur Twitch qui me fait des fuck you. Merci, j'apprécie, c'est gentil, monsieur. Ouais, fait que je me suis ramassé, salut Catalyseur, je me suis ramassé en fait à Saint-Georges-de-Beauce à faire de la radio pendant 2 ans et demi à peu près. Puis c'est vrai, le avant que j'aille là, avant de me ramasser à Saint-Georges, à un moment donné, j'animais avec l'autre personne à Simi FM qui est à Charlebourg, qui n'existe plus maintenant. Ça a été garoché en plein de mains de monde, puis ça n'a jamais marché. À un moment donné, on est arrivé pour faire notre émission, la porte est barrée. On appelle le gars, tu sais, qui avait la clé, mais il était trop saoul pour venir ouvrir. Mais il savait qu'il y avait du monde qui faisait une émission, mais le gars était trop saoul pour venir nous ouvrir la porte. Pour qu'on puisse faire notre show de radio. Fait que le monde qui, tu sais, on n'avait pas beaucoup d'auditeurs. C'était très communautaire, mais les gens qui attendaient après ça, ils ont fait comme Chris. Il n'y a pas de show, ils sont pas là. Il n'y a pas. Non, il se passe à rien. C'est vraiment poche pour vrai de. Ça arrive souvent en plus, ça arrive une couple de fois, tu sais. Me semble, laisse la porte débarrer, tu sais. Puis finalement, après ça, je me suis ramassé justement là à faire un show qui s'appelait le show du diable. Puis c'était moi tout seul. J'ai eu des amis à un moment donné qui sont venus une fois de temps en temps. Mais c'était majoritairement moi tout seul. Puis le show du diable est venu très simplement. On brainstormait pour un nom. Puis j'avais eu... à un moment donné, c'est vraiment con, OK? Ça a un rapport avec le gaming. Mais sur Xbox, à un moment donné, j'avais fait un random name. C'était le show de je sais pas quoi. Puis j'ai fait « Hey, attends un peu ». Je vais appeler ça le show. Tu sais, je vais changer le. Je me souviens pas exactement, mais c'était vraiment en poche comme nom. Mais c'était le show, je sais pas quoi. Puis j'ai fait le show du Yob. Hey, c'est nice. Puis là, on brainstormait pour un nom à radio pour avoir de quoi de un peu plus champ gauche, là. Mais je fais, hey, attends, je vais prendre mon pseudonyme de Xbox, le show du Yob. Tu sais, le show infernal. C'était comme un show un peu plus déjanté. On disait des conneries, puis tout ça. Puis on s'amusait avec ça. Puis. On a pris ce nom-là. J'ai fait ça pendant, je sais pas, peut-être 6 mois avant d'aller faire de la production commerciale à Québec à Rhythm FM, qui est MFM maintenant, qui a changé. Je me suis ramassé après ça un petit show de bombe, exactement. C'est ça que je cherchais. On s'est ramassé après ça à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai animé encore le show du Yarbe. Merci DH pour le sub sur Twitch. Thanks! Merci, j'apprécie énormément. On s'est ramassé à faire le show du Yarbe. C'était un show de 6 à 9. Puis j'avais installé à cette époque-là mais pour vrai, les boss étaient vraiment cool. Je leur disais, j'aimerais ça faire telle affaire. Ça serait malade. J'aimerais ça faire, dans le fond, passer une toune de métal à chaque soir. Mais c'est une radio c'est une radio commerciale. Tu sais, eux autres, c'est un top 40. Là. Ben, les gens m'envoyaient leur demande spéciale de métal. Je la passais. Fait que, j'avais le droit à une chanson qui n'était pas dans le catalogue à tous les soirs de passer ça. Puis après ça, dans le fond, j'ai fait une demande. Je trouvais qu'il manquait... Puis tu sais, j'avais rien à faire à ce temps-là. J'avais comme 24 ans, puis j'avais rien à faire. Qu'est-ce que tu jouais comme gros métal? Ben écoute, je jouais du Killswitch. Je jouais, tu sais, des tunes qui bûchaient pas mal. Tu sais, c'était vraiment intense. Puis après ça, j'ai dit, ça serait cool d'avoir un show la nuit, une fois par semaine, tu sais, de genre minuit à 3. Ou est-ce que c'est un peu plus trash? Ou est-ce que je peux plus faire ce que je veux? J'étais déjà assez trash, là. Puis ça s'appelait le chiffre de nuit. Puis c'était les gens, surtout, qui travaillaient la nuit, qui m'appelaient. Puis c'était vraiment le fun parce qu'il y avait une belle interaction. Le fameux cahier, ben c'est pas vraiment un cahier de chansons, mais c'est le catalogue musical d'un top 40, là. Tu sais, c'est les tunes les plus populaires, les 40 meilleures tunes avec une couple de classiques qui sont ajoutés là-dedans. Tu sais, on dit un cahier musical, mais c'est plus que la station de radio garde un focus sur « OK, nous, on joue ce genre-là majoritairement. » c'est pas mal ça, là, mais il n'y a pas vraiment un vrai cahier là, tu sais, qui est tenu. Là. Mais c'est correct que tu poses des questions en même temps. Les gens qui sont... C'est Joe Robinet qui pose ça dans le podcast. Tous les radios jouent la même genre. Oui, puis non. Fait tellement longtemps que j'ai... c'est The Age qui dit ça sur Twitch que j'ai ça. Ben j'ai gardé là, pas de problème nulle part, mon user. Ouais, je sais pas de quoi tu parles. Changement de sujet. Mais ouais, fait que j'ai fait le shift de nuit. J'avais des chums qui venaient. C'était assez trash. Puis j'ai animé après ça en soir, le soir, la semaine. Au début, le show s'appelait le show du diable. On a changé ça pour le meilleur show au monde. Aucunement prétentieux. Mais je suis tellement allé loin dans cette radio-là. J'ai tellement poussé ma loc que ça m'a permis justement de savoir la ligne était où, de ce que j'avais le droit et ce que j'avais pas le droit de faire. Puis à un moment donné, c'est là la première place, c'est mon premier tatouage. Je l'ai fait en ondes dans cette station de radio-là. C'est mon tatou qui est juste ici sur mon avant-bras. J'avais aucun tatouage, là. J'avais 0 tatouage. Puis j'ai fait « Hey, tu sais quoi? » Je me fais tatouer en ondes pendant tout mon show. Les gens vont pouvoir suivre ça en direct. Puis tu sais, à chaque fois que je parlais, on entendait le truc. C'était vraiment, vraiment cool comme concept. Mais c'est pas tant le fun, se faire tatouer quand t'es live. Parce que, tu sais, pas que ça fait super mal un tatouage, mais c'était pas plaisant tant que ça à vivre. Puis après ça, ben mon poste a été coupé. J'étais un peu jeune et insouciant. Puis c'est normal. À un moment donné, on fait comme « Ah! » on n'a plus besoin de toi, on renouvelle pas ton contrat. Puis j'ai été 6 mois à travailler dans un bar. Tu sais, j'étais boss boy. Tu sais, les fameux, je sais pas ceux qui ont déjà travaillé ou qui ont déjà vu. Tu sais, t'as des bouteilles qui comptent les onces, tout ça. Moi, je mettais ça là-dessus, j'amenais ça au serveur, je montais les caisses de bière. Tu sais, de quoi, bien basic. Puis une fois de temps en temps, j'animais, je remplaçais l'animateur des mercredis drôles, blablabla. Mais tu sais, c'était pas du stand-up, c'était pas de l'humour, c'était. On fait des jeux, les gens gagnent des bouteilles de champagne. C'était ça que j'animais, mais c'était pas... Mais par contre, ça m'a aidé vraiment à être devant des foules puis à finalement m'habituer sur un stage. Parce que ce qui est le plus important, c'est justement ça. Quand tu fais du stand-up, c'est de t'habituer à être devant les gens. Puis après ça, ben tu travailles ton côté drôle et tout ça. Ben, selon moi, j'ai pas la science infuse. Je pense que le parcours est différent pour tout le monde. J'étais 6 mois, après ça, je me suis ramassé 5 mois à Bécomo. J'ai fait de la radio là. J'ai pas grand chose à dire sur Bécomo, ça a été super rapide. C'était les 5 mois les plus longs de ma vie, that's it. Et après ça, je me suis engagé à Drummondville à Énergie où j'ai travaillé pendant 6 ans. C'est là que je me suis détruit l'estomac. j'ai vraiment fait beaucoup de niaiseries. Mais c'est cool parce que les stations ont toujours embarqué dans mon. C'est pas un personnage, mais ils ont toujours embarqué dans mon univers où est-ce que j'étais très anti-radio. Je sais pas, tu sais, si t'écoutes, exemple, pis ils sont super bons, les animateurs, vraiment, les animateurs qui sont classiques, là, tu sais, qui présentent une toune, qui parlent d'une petite affaire, puis qui, boum, ils pètent l'intro. C'est correct à écouter, ça passe le temps, t'les entends pas vraiment, mais moi, je jouais beaucoup avec les mots, je faisais des jokes, tu sais, j'avais des sujets un peu fucked up, là, tu sais, je parlais de sujets un peu plus insolites, puis j'essayais vraiment de faire les trucs un peu différemment, puis c'est ce que j'aimais le plus. Puis ce qui est arrivé, c'est quand Astral a vendu à Bell, ben, ils ont décidé d'uniformiser tout le soir, et ce qu'ils ont fait avec ça, c'est que bon, c'est Montréal qui diffusait partout au Québec, puis ben moi, je me suis ramassé dans le vide à ce moment-là, puis je venais de commencer sur Twitch, puis ben, j'ai pris le show du diable parce que je trouvais que c'était un nom qui fitait bien. Tu sais, des fois, l'erreur que les gens vont faire sur Twitch, c'est d'avoir un gros concept intense qui est basé des fois sur juste un jeu ou juste une affaire. C'est que le problème, c'est que à ce moment-là, si t'arrêtes de jouer à ce jeu-là, ton concept marche plus. Tu sais, tandis que le show du diable, c'est large. Je peux aller, tu sais, oui, le show du diable, il y a le feu de camp, il y a ces affaires-là qu'on a instaurées, mais je suis pas pogné dans un jeu, je suis pas pogné dans un concept. Puis j'avais commencé après la radio à faire un peu de streaming, puis j'aimais vraiment ça. Ça a monté super vite sur Twitch, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de monde assez rapidement. Puis Après ça, de fil en aiguille, j'ai développé mon concept, mais tu sais, je l'ai déjà montré pour les gens qui sont pas en audio, qui sont sur Twitch. J'ai montré, dans le fond, mes débuts. J'ai commencé avec une Xbox, une Kinect, un vieux Turtle Beach, que j'ai encore ici. Je pense qu'il marche encore, mais c'est de la dompe et ça sonne le cul. Je jouais genre à Witcher, ces affaires-là. Je me suis acheté un PC, puis j'ai monté mon concept. Puis entre-temps aussi, quand tu changes de domaine dans la vie, ceux qui ont fait ça, c'est quand même assez difficile de te retrouver un travail après. Ça m'a pris un an. J'appliquais à plein de places, puis personne ne voulait m'engager. Ils me disaient tout, ah, tu vas retourner en radio. Puis j'étais comme, non, c'est pas assez payant. C'est pas, tu sais. Puis tu sais, j'ai quand même travaillé pour Énergie, tu sais, puis des stations de radio qui ont quand même un peu de reconnu, là. Y a-tu du monde qui t'a déjà dit ça en pleine face, qu'il te trouvait pas drôle? Si oui, comment tu l'as pris? Deleted! Y a-tu des gens qui m'ont déjà dit que j'étais pas drôle? Sûrement, mais souvent, c'est des amis qui déconnent. Les gens. On va en parler tantôt de ça. Les gens ont pas de couilles, en vrai. Les gens sont bien baveux sur Internet souvent, mais en vrai, ils parlent pas. Ils vont juste faire comme si ça n'existait pas. Puis on le vit souvent, puis je suis pas tout seul à vivre ça. Là, tout le monde le vit, mais on va en parler tantôt. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai fait un cours du soir à l'École nationale de l'humour parce que je voulais apprendre à écrire des blagues. J'ai toujours aimé l'humour. Je faisais de la radio humoristiquement sur Twitch. Je suis pas toujours drôle, mais j'essaie d'être drôle, tu sais. J'essaie. Je fais pas. J'écris rien, puis il y a rien de calculé dans ce que je dis. Il y a pas vraiment de blague, là. Mais j'essaie de le faire un peu plus humoristiquement, que ce soit divertissant, que ce soit le fun. Fait que j'ai fait un cours du soir, puis il y a une fille à un moment donné qui m'a dit, j'organise un show de variété, tu sais. À l'auditorium au cégep de Drummondville, ça te tente-tu de participer? Tu pourrais venir jouer de la musique. Puis je venais de finir mon cours, tu sais, j'avais une couple de trucs d'écrit, puis j'avais un number, puis... Oh, merci, Kim Poro! King of Poro TV qui follow sur... qui sub sur Twitch 7 mois in a row, man. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Si vous entendez des alertes et vous écoutez en audio...
Je sors mes cornes.
C'est ça, sors tes cornes, Chantal. Et c'est qu'on est live sur Twitch en enregistrant le fameux podcast. Et non, c'est ça, fait que j'ai dit oui, mais je vais pas y aller pour faire de la musique. Je vais y aller, puis je veux faire du stand-up. Je veux vraiment me dénaturer, faire quelque chose, puis vraiment là, faire quelque chose que j'avais jamais fait. Sortir de ma zone de confort. J'ai fait ça, il y avait trois... Premier show de stand-up à vie, il y avait 300 personnes. Quelle idée de cave de faire ça, mais ça a bien été. Ça a super bien été. Le premier, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait que j'étais devant l'inconnu, que j'étais inconscient de ce que j'allais faire. Puis je sais pas si j'avais une confiance de faire « Ah, ça va être correct, tu sais. » Mais finalement, je l'ai fait, ça a bien été. Puis après ça, j'ai été un petit bout sans vraiment trop en refaire pendant peut-être un 3-4 mois. Puis il y a un de mes amis qui partait une soirée à Drummondville. En fait, je le connaissais pas vraiment à cette époque-là, mais c'est une de mes amies qui nous a mis en connexion. Puis elle a dit, PA, tu sais, il fait du stand-up, il commence en nanan. Puis c'est un gars qui m'a bien gros aidé. Il m'a dit, hey, viens faire une chronique sur ma soirée à toutes les soirs. Ça veut dire qu'il t'amène du nouveau matériel. Ça va t'aider à écrire, tu vas t'améliorer, tout ça. Fait que j'ai fait, all right, ça me tente. Puis j'ai embarqué dans ça, j'ai fait ça. Depuis ce temps-là, là c'est plus tranquille ces temps-ci, ça fait un petit bout, ça fait depuis juillet que j'ai pas fait de show parce que je viens de m'installer à Montréal, puis c'est plus dur pour le booking, mais c'est ça, je suis rendu là, dans mes histoires là, j'ai fait des shows, j'étais chanceux là, tu sais, fait des shows avec Jean-Thomas Jobin, avec Mike Ward, avec Jeff Mercier, plein d'autres noms, Joe Cormier, plein d'autres noms super, super drôles qui sont vraiment le fun à voir en show. Mais c'est là que je suis rendu. Je voulais faire un peu le pédigree comme ça parce que souvent des gens qui me posent des questions genre « Ce que tu faisais avant de faire du Twitch puis du stand-up, qu'est-ce que t'as fait avant? Tu viens de où? » Nanana. Fait que ça va être un peu l'épisode de... On a fait un peu le pédigree, fait que je le referai plus jamais. Peut-être en 2032, mais si ça a changé. Mais je n'en ferai plus jamais. Mais sinon, il y a un autre sujet que je voulais jaser, puis je voulais qu'on en jase avec les gens qui sont live aussi sur Twitch. Si vous avez des opinions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'en jaser aussi. Je réponds moins au chat quand je suis en... Je m'excuse ceux qui viennent d'arriver sur Twitch en live. Je réponds moins au chat un petit peu pendant que je blabla, parce que sinon, je passerais juste mon temps à nommer des noms, puis à faire comme « Hey, what's up? Comment ça va? » Là, voyez-vous, ce silence-là, c'est une gorgée d'eau. Ça, c'est pour ceux qui écoutent en audio. Voyez-vous, je pense à tout le monde. Je pense à tout le monde. Je vais appeler ma mère, je vais voir si elle est en forme. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, je voulais parler des gens, des fameux... je sais pas comment les appeler, pour vrai. Les décideurs de qualité de contenu. On s'entend-tu là-dessus? J'ai vécu des situations dernièrement qui m'ont fait rire plus qu'autre chose. Parce que c'est le genre de situation, il faut que tu prennes en riant. Puis je suis pas... je suis vraiment pas le seul à vivre ça, là, dans l'univers. Mais justement, c'est pour ça que j'en parle. On dirait qu'il y a des gens qui ont la science infuse de ce qui est du mauvais et du bon contenu. Et ils vont venir faire exprès pour te le rappeler ou pour te dire, je sais pas, « Hey, ton contenu, moi j'aime pas ça, c'est de la marde, tu devrais pas, exemple, parce que moi, je suis partenaire Twitch qui a aucune vraiment incidence dans ma vie, là. Mais je suis partenaire Twitch, donc je mérite pas mon partenaire, je mérite pas d'avoir le droit de diffuser, exemple. » je comprends pas ces gens-là. Si t'aimes pas quelque chose dans la vie, me semble que tu passes go puis tu réclames 200$ puis tu sacs ton camp. Là, je veux dire, moi personnellement, okay, c'est mon avis à moi, mais moi si j'aime pas quelque chose, j'irai pas voir la personne puis dire, hey, excuse-moi, je voulais juste te dire, tu sais, ton contenu là, moi je trouve personnellement que c'est de la crise de marde. Tu sais, c'est comme si j'allais faire un tour chez IGA, ok? Puis, je restais à côté des raisins verts, là, puis là, je disais au monde, « Hey, mange pas ça des raisins verts, j'aime pas ça. Moi, je trouve que ça goûte la crise de marde. T'as pas le droit. » Je comprends pas, tu sais. Moi, dans la vie, je trouve que c'est créer des conflits pour rien que d'aller exemple, sur un channel YouTube ou d'aller sur un Facebook ou d'aller écrire, « Ah, oh, moi, j'aime vraiment pas ça, ce que tu fais. » tu mérites pas de faire ça. Tu devrais juste fermer ta gueule puis faire tes affaires. » Man, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, pour dire à quelqu'un qui n'a pas le droit d'exercer sa passion, exemple? Hey, il ne saura pas faire du skate. T'es pas capable de faire un ollie. Moi, je veux pas que t'en fasses. Ça leur fait du bien de faire chier les autres. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de haine intérieure de gens pas heureux qui ont besoin de s'affirmer et de dire « Ah, moi... » Je suis pas d'accord avec toi, mais t'as le droit de pas être d'accord avec moi, puis je respecte ton opinion. Mais si je veux faire ce que je suis en train de faire en ce moment, je vais le faire, tu comprends? C'est la moindre des choses. Si je décide que je veux devenir un... Je sais pas, moi, un prof de nage sur le dos à relais... J'ai le droit de peut-être vouloir avoir une aspiration de faire ça. Là. Ben oui, c'est vrai que c'est plus facile derrière un écran. C'est que Chef qui écrit ça sur le chat Twitch. C'est vrai que c'est plus facile derrière un écran. Les gens dans la vraie vie, on en parlait un peu tantôt avant que je finisse. Prof de combat, ouais, de Zumba. Ouais, ça serait bon ça, le show diable prof de Zumba. Merci Master Terrio. Salut Zoom Chips. Mais c'est ça, tu sais, les gens vont te l'écrire souvent sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, whatever, mais ils croisent en vrai. Puis là, ils vont être comme... Ah non, il n'existe pas et puis on s'en allait. Tu sais. Je l'ai vécu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, telle personne demandait si t'étais fâché après parce qu'elle t'avait un peu écorché sur Twitter, nanana. Puis j'ai fait comme, ben non, je m'en fous. Tu sais. Puis la personne y a répondu, tu sais, il fait des jokes dans la vie, là, fait qu'il comprend que tu niaises. Mais la personne n'était pas capable d'assumer ses dires en vrai et venir faire comme, hey, salut, ça va. Tu sais. Les gens se sauvent, les gens ont peur, les gens sont un peu moumoun là-dessus. Mais. C'est la vie. Faut pas, tu sais, si jamais ça vous arrive, découragez-vous pas. Moi, je rentre ça dans la catégorie troll, surtout des gens qui ont pas de vie. Et faut pas s'arrêter à ces gens-là. Faut continuer à faire ce qu'on aime. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit, je pense, dans le podcast, puis je le redis, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair. Il y aura jamais 100% des gens qui vont aimer ce qu'on fait, puis il y a toujours 2-3 imbéciles qui vont avoir le courage sur Internet, pas en vrai, de nous le dire. Ouais, exactement. Ces gens-là, quand ils te croisent dans la vraie vie, tu sais, au lieu de venir faire comme, ah, tu sais, j'étais pas d'accord avec ce que t'as dit, nanana, ben, ils se sauvent en courant, tu sais. Mais ça, ça fait partie, je pense, de. Puis plus que vous allez avoir de monde, plus que vous allez avoir de succès dans vos trucs que vous entreprenez, on dirait que c'est la mentalité au Québec, plus que ça va faire chier des gens, tu sais. Mais. Shit happens, ça fait partie de la vie. Et c'était les sujets que je voulais traiter aujourd'hui. Merci aux gens qui écoutent sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup. Merci. C'était l'épisode 4 de Va donc chez Liarbe. All right. Bye. Bisous.